franceinter.fr.
La revue de presse, bonjour Hélène Jouan.
Bonjour Patrick.
On commence par un coup de gueule de la presse belge.
Ouais, ambiance pas franchement chaton entre le rédacteur en chef de la Libre Belgique et la presse française. Édito signé Francis Van de Vostine, intitulé « C'est pas moi, c'est lui, le jeu dangereux de la presse française ». Le journaliste belge s'offusque des commentaires français, ceux du Monde en particulier, sur le thème « La sympathique Belgique est devenue une plaque tournante du djihadisme, le pays doit se ressaisir ». D'abord, écrit l'éditorialiste, on n'a pas attendu que la rédaction du Monde débarque à Bruxelles pour dénoncer les failles des services belges dans la lutte contre le terrorisme. Ensuite, pointe-t-il, si certains auteurs des attentats sont effectivement passés par Bruxelles ou Molenbeek, d'autres n'ont jamais quitté l'Hexagone, sauf pour aller se former en Syrie. La condescendance française n'a décidément pas de limite, écrit-il. Les critiques seraient plus faciles à accepter si elles venaient d'un État qui serait un modèle du vivre ensemble et de l'intégration. Si c'était le cas, conclut-il grinçant, le FN, parti raciste et xénophobe, ne serait pas le premier parti de France. Mais sans doute, les responsables du FN ont-ils été formés en Belgique ? 3 points de suspension. À lire dans le Figaro pour appuyer un peu le coup de gueule de notre confrère belge, un portrait de la ville de Saint-Denis où a été mené l'assaut du raid mercredi dernier. Une ville qui est un concentré de communautarisme, écrit la journaliste, malgré les dénégations de certains de ses élus ou de ses habitants qui disent non, c'est pas pire ici qu'ailleurs. Saint-Denis, Molenbeek, deux villes, deux pays et les mêmes mots.
Au jeu de c'est pas moi, c'est lui, autre cible ce matin dans la presse. L'Europe passoire.
La Grèce, cheval de Troie, malgré elle, des djihadistes, titre aujourd'hui en France Le Parisien. Le quotidien revient sur le parcours de deux des kamikazes du Stade de France, passés par l'île de Léros en Grèce. Avec un stratagème mis en place par les passeurs depuis des mois, à l'approche des côtes, les migrants se sabordent pour obtenir un statut de naufragé et justifier ainsi l'absence de papier. Un garde-côte témoigne, oui, début octobre, on les a sauvés des eaux, ces deux kamikazes, donc parmi un groupe de 109 personnes. On ne mesure pas cette passoire qu'a été la Grèce pendant des mois, raconte un Français qui vit sur l'île. Pendant que l'Europe accablait la Grèce pour sa dette, eh bien elle avait oublié que cette frontière grecque était aussi la sienne. Un manque de contrôle corroboré par le patron de Frontex, l'agence européenne chargée de la surveillance des frontières, Fabrice Leggeri, qui rappelle toujours dans Le Parisien que jusque-là, les États européens avaient refusé de déléguer à Frontex ce qu'ils considéraient comme relevant de leur souveraineté nationale, chacun faisant implicitement confiance à l'autre pour jouer son rôle de surveillance donc et de sécurité. Alors vendredi, les ministres de l'Intérieur et de la Justice se sont enfin prononcés pour que Frontex contribue à cette surveillance, notamment en ayant accès aux fichiers Schengen ou Europol. Mais Fabrice Leggeri nous prévient, il faudra au mieux un délai d'un an pour que ce règlement européen soit adopté. Un an.
Dans la presse également ce matin, Hélène, toujours des questions sur le comment repérer sur le sol français les éventuels apprentis djihadistes.
Avec un dossier de Libération sur le terreau salafiste, cette mouvance radicale de l'islam, et un focus sur l'imam de Brest, qui montre, si on en doutait encore, que rien n'est simple. L'imam de Brest, vous vous souvenez évidemment, c'est celui qui expliquait à de jeunes enfants qu'Allah transforme soit en porc, soit en singe, ceux qui écoutent de la musique. On avait vu la vidéo circuler depuis septembre. L'affaire semble évidemment entendue. Imam radical, parmi ceux que Manuel Valls s'est promis d'expulser après les attentats du vendredi 13. Oui, évidemment, mais depuis qu'il est là, les jeunes préfèrent se consacrer à l'islam plutôt que de dealer, plaident certains habitants de la cité HLM. Oui, sauf que certains enfants de 10 ans vont à la mosquée plutôt qu'à la médiathèque. Et que quand on fait un goûter d'anniversaire, ils nous demandent s'il y a du porc dans la tarte aux pommes, s'alarme une animatrice qui constate une fracture entre des enfants élevés dans les valeurs de la République et ceux élevés dans les valeurs de l'islam. Alors, l'imam de Brest, médiateur ou prédicateur dangereux, le sociologue Raphaël Liogé entend faire une distinction entre le fondamentalisme de cet imam, qui resterait dans une logique individualiste, intime, et le djihadisme. D'ailleurs, l'imam est devenu lui-même une cible de l'État islamique. Il a été menacé de mort. En fait, plus on est fondamentaliste, assure Liogé, moins on peut glisser dans l'action terroriste. Une stratégie du rempart pas forcément partagée par tous. Une pétition locale pour l'expulsion de cet imam a déjà recueilli 40 000 signatures.
On passe à présent à la COP21 sans totalement tourner la page du terrorisme.
Le réchauffement climatique, facteur de guerre c'est pas sérieux, s'insurge Bruno Tertrais dans l'Opinion. Bruno Tertrais, maître de recherche à la Fondation pour la Recherche Stratégique, qui exhume une vieille interview de votre collègue Laurent Fabius au JDD, c'était en mai dernier, interview dans laquelle il déclarait « Le dérèglement climatique favorisera de plus en plus les conflits violents dans les pays émergents. C'est en définitive la question de la paix ou de la guerre pour les générations à venir. » Ces thèses ne sont pas sérieuses, assène donc Tertrais. Rien dans l'histoire, détaille-t-il, ne prouve qu'il y a un lien entre rareté des ressources et conflictualité. Du Darfour à la Syrie, en passant par les printemps arabes, mieux, lorsque les catastrophes surviennent, dit-il, les désastres conduisent souvent à réduire le risque de conflit. Par exemple, il y a une détente entre la Grèce et la Turquie au lendemain du tremblement de terre de 1999. Les guerres naissent des choix et des erreurs des hommes, dit-il. La nature de l'État est bien plus importante que l'état de nature, conclut-il. Vous faites un lien, vous, Ségolène Royal, entre le réchauffement climatique et la guerre, et les guerres?
Je fais un lien, et en même temps, ce qui se passe dans le réchauffement climatique, c'est qu'il y a des solutions. Je veux dire par là que le dérèglement climatique conduit à déstabiliser certaines parties du monde, à déstructurer certaines parties du monde, et en particulier à cause des migrations climatiques, ce qu'on appelle les migrations climatiques. Je vous invite d'ailleurs à découvrir une extraordinaire exposition au Palais de Tokyo qui s'ouvre ce soir, où l'on voit l'augmentation massive des réfugiés climatiques, et notamment Sud-Sud. J'ai rencontré beaucoup de chefs d'État africains, vous le savez, et lorsque il y a une progression du désert, une désertification, une disparition de l'eau, à ce moment-là, il y a des déplacements massifs de population et donc une déstabilisation des États. D'ailleurs, j'ai pris la parole sur ce sujet lorsque les ministres de la Défense se sont réunis là récemment pour voir quels étaient les liens entre les conflits et le réchauffement climatique. Et j'ai cité l'exemple de la Syrie. Dans ce pays, il y a eu une très grave sécheresse en 2011. Cette très grave sécheresse a entraîné des déplacements massifs de populations agricoles. 1,5 million d'habitants sur 22 millions d'habitants qui sont venus grossir les villes où étaient déjà des réfugiés d'autres pays. Et donc, il y a eu des tensions extrêmement vives qui conduisent en effet à des déstructuration et à des révoltes.
Vous avez surpris en tout cas hier Ségolène Royal en expliquant que le défi climatique était à vos yeux aussi important que celui du terrorisme. Je ne sais pas si on peut comparer les deux, mais c'était peut-être une manière de vous agacer de l'effacement du débat public des enjeux climatiques et l'ouverture de la COP21, non ?
Pas du tout, c'est tout à fait fondé. C'est-à-dire que nous avons deux défis à relever d'ici la fin de ce siècle. Le défi du terrorisme et le défi climatique qui est présent à la fois des dangers énormes. Vous avez vu que la Banque mondiale vient de publier un rapport disant que même à 2 degrés, il y avait plusieurs centaines de millions d'habitants de la planète qui basculaient dans l'extrême pauvreté, et l'extrême pauvreté est aussi un terreau des tragédies que nous connaissons d'une part, mais ce qui est très important, c'est de dire que c'est aussi un moment à la fois de solidarité et puis de formidables espérances, parce que il y a des solutions à apporter au dérèglement climatique, et en particulier à l'accès massif des pays, notamment des pays pauvres, à l'électricité, à l'énergie, aux énergies propres, à la protection de la biodiversité, à l'accès à une alimentation saine, à la protection de la santé. Donc ce sont des enjeux majeurs de civilisation qui sont accompagnant des défis du dérèglement climatique.
On va y revenir. Les attentats, Hélène, jouant et ses conséquences en termes économiques, pour finir.
Oui, c'est le patron du groupe Galerie Lafayette, Philippe Houzé, qui l'assure. Le non ric-rac des salariés du BHV à l'ouverture des magasins le dimanche est une conséquence du climat post-attentat, affirme-t-il. Alors lui s'attendait à un vote favorable des employés de cette filiale des Galeries Lafayette, mais les salariés, affirme-t-il, ont été impressionné par l'ambiance du moment. Philippe Houzé, qui utilise à son tour l'argument des attentats et surtout de la chute de l'activité du BHV ces derniers jours pour dire « Sans le volume d'affaires des 52 dimanches travaillés, nous ne parviendrons pas à l'équilibre ». Et puis on termine par un test, Patrick. Riez-vous plus, vous, à Benny Hill ou au Monty Python? Attention, hein.
Ce sont deux rires différents. Les deux me font rire, mais je dois dire.
Oula, alors c'est que ça va
Monty
pas fort. Très bien, c'est que ça va bien, alors, parce que c'est une très sérieuse étude menée par le Centre de recherche sur la démence, qui est dévoilée dans le Figaro, qui montrerait que 9 ans avant l'apparition d'Alzheimer, les premiers symptômes de la maladie sont le changement d'humour. Oui. Ouais, les malades préfèrent tout à coup les comédies burlesques, genre Tom et Jerry ou Benny Hill, aux comédies absurdes ou satiriques, genre Monty Python. Bref, quand on n'est plus capable de saisir le second degré, faut s'inquiéter.
Oui, mais moi, ça fait très longtemps que j'aime Benny Hill, même quand j'étais petit. Voilà. Merci beaucoup, Hélène Jouan, pour la revue de presse sur Internet.